Alors nous continuons la lecture du livre de la Genèse avec la vie d'Isaac, c'est-à-dire les chapitres 25 et 26. Un plan de mon exposé. Dans le premier chapitre 25, je dirai un mot sur la mort d'Abraham. Ensuite, les naissances d'Ésaü et de Jacob. L'élection de Jacob, et puis on pourra analyser le comportement d'Ésaü et de Jacob, des jumeaux qui sont très différents. Peut-être si vous pouvez vous déplacer, ça serait mieux, sinon vous ne voyez pas beaucoup. Et puis au chapitre suivant, 26, l'apparition de l'Éternel à Isaac, le mensonge d'Isaac, et puis les similitudes avec le mensonge de son propre père. La bénédiction de l'Éternel dans la vie d'Isaac. Et on verra Isaac, un homme de Dieu. Et puis une conclusion. Et finalement, la réflexion que j'avais prévue sur la reproduction des comportements familiaux, autrement dit, que faire des péchés des pères, est reportée à une autre fois, parce que le message aurait été beaucoup trop long. Alors voici le contenu du chapitre 25. Dans les quatre premiers versets, Abraham prend une autre femme, Keturah. Et il a d'autres fils. Alors les opinions varient sur la date qu'il faut attribuer à ce mariage d'Abraham. Les uns pensent que c'est le texte dans sa vraie place chronologique, donc après la mort de Sarah et le mariage d'Isaac. D'autres admettent que c'est peut-être du vivant de Sarah. Il en résulterait que Keturah aurait été une concubine et non une femme légitime. Quoi qu'il en soit, dans le plan mystérieux de Dieu, chacun a un rôle à jouer. En effet, les descendants de cette discrète Keturah, parce qu'il en est très très peu parlé, parmi ses enfants, il y aura Madian et qui aura pas mal de relations avec le peuple plus tard. Dans les versets 5 à 10, avant de mourir, Abraham prend des dispositions pour sa famille. Et au verset 11, Dieu bénit Isaac. Et les versets 12 à 18 constituent la septième partie du livre sur les descendants d'Ismaël, le septième Toledo. Puis arrive le verset 19, et le personnage principal, c'est désormais Isaac. En effet, à partir du verset 19, dans cette huitième partie, ce sera les descendants d'Isaac, autrement dit l'histoire de Jacob, le fils d'Isaac. Dans les versets 19 à 26, il y a les naissances des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ensuite, 27-28, il y a Ésaü et Jacob devenus adultes. Et puis dans les versets 29 à 34, Ésaü méprise son droit d'aînesse et le vend à Jacob. Alors dans mes diapos, il y aura la plupart des versets que je vais lire, mais c'est peut-être bien que vous ayez votre Bible, parce que des fois, on mémorise mieux où se trouve le texte quand on le voit visuellement. Au chapitre 25, à partir du verset 5, j'utilise la traduction « Parole de vie ». Abraham donne tous ses biens à Isaac et il fait des cadeaux aux fils des autres femmes. Les six premiers versets de ce chapitre établissent le fait que Abraham est le père de nombreuses nations, mais que c'est par Isaac que les promesses de l'alliance seront réalisées. Après la naissance de ses fils, Abraham fait la répartition de ses biens. De son vivant, on pourrait dire qu'il met de l'ordre dans sa famille avant de partir. Un exemple à imiter sans doute. Et confiant les promesses de Dieu, Abraham fait les cadeaux à ses autres enfants. Et Abraham les envoie vers l'est, plus loin, pour les éloigner d'Isaac. Au verset 7, il est dit, Abraham a 175 ans quand il meurt. Il quitte la vie après une vieillesse longue et heureuse. Il a donc vécu 100 ans en Canaan. Il est écrit que sa vieillesse fut heureuse. C'est étrange. On perd ses facultés physiques, son indépendance. Il y a souvent une succession de deuils, peut-être son conjoint, peut-être des amis de sa génération. Deuil de ses facultés. Comment pouvait-il goûter le bonheur? Le mot bienheureux est utilisé par Jésus dans le sermon sur la montagne. Il désigne les pauvres. Il désigne ceux qui pleurent. Dans cette vulnérabilité humaine, une bénédiction spéciale peut émerger. Peut-être, moi-même, je connaîtrai la mort intimement. C'est possible. Et cette réalité devrait changer ma façon de vivre. Nous ne pouvons vivre bien qu'en acceptant la vérité de notre destination finale. En acceptant notre mortalité, nous apprendrons à vivre par Christ. Peut-être y a-t-il une explication à la vieillesse bienheureuse d'Abraham, en Hébreux 11. Il est dit, il n'a pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais il les a vus. Non, plutôt, il est mort en croyant en Dieu. Il n'a pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais il les a vus, il les a salués de loin. Peut-être le secret de son bonheur, c'est qu'il est mort en croyant en Dieu. Quel bel exemple! Au verset 9, ses fils Isaac et Ismaël l'enterrent dans la grotte de Macpéla. Le texte nous dit que ses fils Israël et Isaac, qui n'étaient pas spécialement amis, sont réconciliés pour la circonstance, pour enterrer leur papa à côté de Sarah. Peut-être qu'Abraham les avait réunis, les avait fait venir tous les deux avant ce moment, ce passage dans l'éternité. C'est bien, c'est beau. C'est ici la fin de l'histoire d'Abraham. Mais peut-être avant de clore son histoire, nous pouvons, chacun, chaque croyant, remercier Dieu pour le témoignage de cet homme, le triomphe de la foi. Il est mort en croyant. Lisons le verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Ça va?
Et c'est assez net ou pas? Parce que je n'ai pas réglé.
Isaac habite près du puits de l'Akaïroï après le décès de son père. Bien qu'Abraham soit mort, les buts et les promesses de Dieu demeurent. Dieu a un plan et qui s'accomplit. De tous les fils d'Abraham, Dieu choisit Isaac pour être l'héritier de la promesse, et cela avant même sa naissance. C'est ce que nous avons déjà lu au chapitre 17. « Mon alliance, je veux la faire avec Isaac », avait dit Dieu à Abraham. Isaac habite près du puits de l'Akaïroui. Par là. Dans le désert. La partie qu'on appelle le Negev, vers le Sinaï. J'ai noté aussi l'origine de Rebecca.
Là-haut. Pas dans Aram.
La haute Mésopotamie. La femme d'Isaac. En effet. Lisons à partir de verset 19. Isaac a 40 ans quand il épouse Rebecca. Mais ce ne fut que 20 ans plus tard qu'il eut des enfants. Alors lisons ce texte peut-être. Tous les deux, mais verset 2, mais 21, Rebecca ne peut pas avoir d'enfants. Alors Isaac prit l'Éternel pour sa femme. L'Éternel écoute sa prière et Rebecca devient enceinte. Elle attend des jumeaux. Ses enfants se donnent des coups dans son ventre. Là, il n'y a sans doute que les mamans qui peuvent comprendre ce texte. Alors Rebecca se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle va consulter l'Éternel. 20 ans de vie de couple avec cette grande épreuve de stérilité. Les trois ancêtres du peuple élu, Sarah, femme d'Abraham, Rebecca, femme d'Isaac, Rachel, femme de Jacob, sont toutes stériles avant que ne leur soit accordée une progéniture miraculeuse. Pourtant, la promesse de Dieu, Abraham, était « Tu seras le père d'une grande nation ». On comprend que la stérilité fait obstacle au projet de Dieu. La stérilité en Israël était d'ailleurs perçue comme une malédiction et les personnes en souffraient énormément, elles étaient méprisées. D'ailleurs, la stérilité est un motif de divorce au bout de 10 ans de mariage. La solution, à l'époque, consistait à partager la couche d'une servante. La mère porteuse n'était pas la mère. Alors, contrairement à aujourd'hui où c'est la femme qui porte l'enfant et qui accouche qui est déclarée la mère. À l'époque, le statut de mère revient à la femme stérile. On le découvre d'ailleurs dans le code de Hammurabi, mais aussi dans ce livre de la Genèse. Et Sarah, d'ailleurs, n'a fait que appliquer le droit familial sumérien lorsqu'elle consent à donner Agar, sa servante égyptienne, à Abraham. Un encouragement pour quand même ce couple d'Isaac et Rebecca, c'est qu'ils n'ont pas fait comme leurs parents, ni comme plus tard leurs enfants, utiliser un subterfuge. Ils sont restés fidèles l'un à l'autre. Au verset 21, Isaac intercède auprès de Dieu pour sa femme et elle devient enceinte. Dieu a ouvert la matrice au moment opportun pour Sarah, pour Rebecca, pour Rachel. Pendant sa grossesse, Rebecca est perplexe. Des grosses douleurs dans son ventre. Elle consulte Dieu. Au verset 21, Isaac prie pour sa femme. C'est beau. Que demande-t-il? La venue de cet enfant promis? Peut-elle prie-t-il aussi pour que sa femme soit encouragée? Par deux fois, il est dit qu'il aimait sa femme. Et ensuite, c'est au verset 22, Rebecca qui prie. C'est beau. Alors là, on pourrait peut-être s'attendre à une prière de reconnaissance. C'est plutôt l'inquiétude qui transparaît. Mais c'est tout à fait normal et humain d'avoir des peurs pendant une grossesse. Elle se confie à Dieu. C'est beau. Le texte semble indiquer que mari et femme ne prient pas ensemble, mais séparément. Alors là, j'ai fait parler le silence du texte. Donc on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce n'est pas dit qu'ils prient ensemble. Alors, est-ce une faille dans le couple? Je ne sais pas. En tout cas, malheureusement, plus tard, cette famille va montrer un dysfonctionnement majeur. Poursuivant notre lecture au verset 23. L'Éternel lui dit, donc à Rebecca, « Il y a deux nations dans ton ventre. Deux peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. » Et quand le moment d'accoucher arrive, c'est clair, elle a des jumeaux. Le premier qui sort est roux, et il est couvert de poils comme la peau d'un animal. On lui donne le nom d'Ésaü. Son frère sort après lui, peut-être quelques minutes après, je ne sais pas. Il tient le talon d'Ésaü par la main. On lui donne le nom de Jacob. Quand ils naissent, Isaac a 60 ans. La coutume était que des deux fils, l'aîné devait être prééminent. Normalement, le premier-né était l'héritier. Cette prophétie adressée à Rebecca est une révélation importante pour elle, mais pour nous aussi, chrétiens, aujourd'hui, car elle indique le principe de l'élection divine, qu'on va aborder dans un instant. Une parenthèse, on a déjà vu que Isaac habitait l'Akaïroï, dans le désert. Mais au chapitre 16, il est parlé de ce lieu. C'est la servante de Sarah, Agar, qui est enceinte d'Abraham, qui est maltraitée par Sarah, car trop jalouse de cette grossesse, qui s'enfuit dans le désert, près de cette fontaine d'eau. Et là, Dieu se révèle à Agar. Une femme en pleine fragilité, en pleine détresse, seule, sans ressources, sans appui. Et Dieu vient la rejoindre là. Et pour lui dire en résumé, je paraphrase le texte, Dieu lui dit, j'ai un plan pour toi. Et c'est grâce à Agar que ce puits s'appelle puits de l'Akaïroui, qui veut dire le puits du vivant qui se révèle. Alors c'est très touchant de voir Dieu s'adresser maintenant à Rebecca, dans le même lieu, pour lui donner cette prophétie. Rebecca qui est aussi enceinte, et qui est dans la détresse, et qui a peur, Dieu vient et intervient. Et cette prophétie concerne l'élection. Romains, lisons donc un mot sur l'élection divine. Et l'apôtre Paul en parle en Romains 9. Et Paul se réfère à Genèse 25, justement, comme l'illustration du principe de l'élection. Lisons. Pensons aussi à Rebecca. Ses deux jumeaux avaient le même père, notre ancêtre, Isaac. Il n'était pas encore né. Il n'avait donc fait ni bien ni mal quand Dieu a parlé à Rebecca, afin que son projet demeure. Ce projet relève de son choix, de l'appel, de son choix, de l'appel qu'il adresse aux gens, et non de leurs actions. Dieu a dit, l'aîné servira le plus jeune, comme le déclare l'Écriture. Alors, verset 14, que faut-il en conclure? Dieu serait-il injuste? Certainement pas, dit Paul. Et au verset 16, il dit que cela dépend uniquement de Dieu qui a compassion. Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui ne dépendra pas des actions des hommes, mais uniquement de sa volonté à lui. D'ailleurs, le comportement d'Abraham qui a été élu, d'Isaac qui a été élu, de Jacob qui a été élu, leurs comportements ne sont pas meilleurs que les autres. Parfois, ils ont été même pires que celle de n'importe qui d'autre. Ésaü a vendu son droit d'aînesse, non pas parce que Dieu l'a prédéterminé ainsi, mais parce qu'il a méprisé son droit d'aînesse, dit le texte au verset 34. Et si un homme va en enfer, ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas choisi, mais parce qu'il n'a pas choisi Dieu. D'ailleurs, en Deutéronome, Dieu dit, je place devant toi la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Et il dit à tout homme, choisis la vie et tu vivras. Le sujet de l'élection est délicat. Il y a une part de mystère pour nous humains. Dans ce chapitre, on peut voir l'exemple de deux mauvaises réponses à la souveraineté de Dieu sur le sujet de cette élection divine. Première mauvaise réponse est le comportement d'Isaac, qui a essayé de résister à la volonté de Dieu, comme elle a été révélée à sa femme Rebecca. Et donc je pense quand même que Rebecca, qui a eu cette prophétie, en a parlé quand même à son mari, j'imagine, qui devait être donc au courant. Et Isaac résiste. Il persiste à préférer Ésaü. Il semblerait d'ailleurs qu'il espérait toujours que Dieu changerait son projet vis-à-vis de son fils préféré. Une deuxième mauvaise réponse, celle de Rebecca, qui a peut-être mal appliqué cette doctrine de l'élection dans un autre sens. On peut penser qu'elle a justifié son favoritisme pour son fils, Jacob, à cause de son élection. Ça peut paraître d'ailleurs spirituel, mais c'était tout aussi faux que le favoritisme d'Isaac pour Ésaü. Je suggère une application, avec prudence toutefois, au contexte actuel en Israël. Si la prophétie concernant l'élection de Jacob ne justifiait pas le favoritisme envers lui, et de surcroît aux dépens d'Ésaü, de même, la prophétie concernant Israël ne justifie pas les actions guerrières des Juifs envers les Palestiniens. Ne soyons pas simplistes, condamnés ou au contraire absoudres uniquement avec des prophéties bibliques. Comme a dit Abraham, seul l'Éternel est juge de toute la terre. Considérons le but de Dieu, révélé au chapitre 26, les versets 3 et 4 qu'on n'a pas encore lus. Je tiendrai la promesse que j'ai faite à Abraham, ton père. Je rendrai tes enfants, puis voilà, et ses enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et puis à la fin, il est dit, tous les peuples du monde seront bénis à travers eux. En choisissant un homme, Dieu avait en vue une nation et avait en vue le monde entier. Les Juifs ont été choisis, non pas pour une bénédiction spéciale pour eux seuls, mais pour être un instrument pour la révélation rédemptrice de tous les hommes sur terre. L'élection, mais c'est le souhait de bénir toutes les nations par le biais d'Abraham et de sa descendance. Car dans la descendance, il y aura le Messie. Il y aura le Sauveur du monde. Lisons à partir de verset 27 du chapitre 25. Ces garçons grandissent. Ésaü devient un bon chasseur qui passe son temps dehors. Jacob est un homme tranquille qui reste sous sa tente. Isaac préfère Ésaü parce qu'il aime la viande de chasse. Quel motif, hein ? Rebecca préfère Jacob. Alors, quels sont les caractères de ces jumeaux ? Peut-être qu'ils ont eu chassé les bêtes des champs avec beaucoup d'habileté. Jacob, peut-être plus simple, aimait être tranquille à l'écart. Ces deux hommes étaient donc sans doute très différents. Est-ce qu'ils ont eu été vraiment un homme très masculin, vivant en plein air, flamboyant ? Peut-être que le genre de fils qu'un père serait fier de parler à ses voisins, je ne sais pas. Jacob, différent, tranquille, songeur, plus intéressé à rester à la maison, et on le voit même près de sa mère, dans la cuisine, préparant un plat de lentilles. Jacob s'est montré ensuite bon éleveur, mais avec un caractère manipulateur, et donc il porte bien son nom, qui veut dire supplanteur, trompeur. Isaac n'a eu que ses deux, et Rebecca n'ont eu que ses deux enfants, semble-t-il. L'un étant préféré par son père et l'autre par sa mère. On peut imaginer que chaque parent soulignait les qualités de son préféré. À l'inverse, Jacob devait manquer d'intérêt pour Isaac devait manquer d'intérêt pour son fils, Ésaü. Pour Jacob, voilà. Et puis Rebecca pour Ésaü. On sait que chaque enfant se pose la question, je ne sais pas si c'est le cas ici, s'il est préféré de son père ou de sa mère, ou de ses parents. Mais écoutez, même les adultes posent cette question. Et des fois, quand il y a un papa ou une maman qui décède, les enfants adultes sont travaillés par cette question. Alors, une mise en garde importante pour l'éducation, pour nos parents. Une mise en garde qu'on verra aussi d'ailleurs avec Jacob qui va préférer son fils Joseph. Parce que ses comportements peuvent générer une jalousie, une colère, une amertume qui peut durer des années dans la vie d'une personne. Verset 29. Un jour, Jacob prépare un plat Ésaü revient de la chasse. Il est très fatigué. Il dit à Jacob, « Je suis fatigué, s'il te plaît, laisse-moi avaler ton plat roux. Je vais avaler ce plat-là. » C'est pourquoi on a donné à Ésaü le nom d'Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob lui répond, « Mais vends-moi d'abord tes droits de fils aîné. » Ésaü lui dit, « Je meurs de faim. Mes droits de fils aîné peuvent me servir à quoi ?» Il va vendre ses droits ? Quelle folie ! Jacob lui dit, « Jure d'abord !» Ésaü fait un serment et il vend à Jacob ses droits de fils aîné. Alors Jacob donne à Ésaü du pain, un plat de lentilles. Ésaü mange, boit, il s'en va. Il se moque de ses droits de fils aîné. Le mépris d'Ésaü pour son droit d'aînesse est blâmé. Il est dit, il se moque. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ce sont là des propos d'un profanateur qui ne respecte pas les choses saintes. Y aurait-il une leçon à retenir ? En tout cas, nous attachons-nous aux promesses de Dieu, à sa parole. Ne sous-estimons pas non plus, par exemple, le pardon de Dieu. Est-ce qu'on pourrait le sous-estimer ? Notre nouvelle identité en Christ ? Notre filiation ? Dieu comme Père ? La présence de l'Esprit en nous ? Si on sous-estime ces aspects, ce serait peut-être se priver de la grâce de Dieu. Comme dit l'Épître aux Hébreux, avec l'exemple d'Ésaü. Abordons le chapitre 26. Isaac est mentionné dans plusieurs chapitres de la Genèse, mais dans ce chapitre, c'est le seul qui soit exclusivement consacré à Isaac. Et on voit les événements qui résument la vie d'Isaac, et qui ont tous un parallèle très frappant avec la vie de son père Abraham. Commençons par lire les 5 premiers versets. Il y a une famine dans le pays. Isaac part pour Guérar chez Abimélec, le roi des Philistins. L'Éternel se montre à Isaac, il apparaît à Isaac, il part, il lui dit, ne pars pas en Égypte, va habiter dans le pays que je te montrerai. Reste dans ce pays. Et là, des paroles qu'on peut chacun entendre. Je serai avec toi, je te bénirai. Oui, je te donnerai ces terres. Et puis verset 4, je rendrai tes enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel, et tous les peuples du monde seront bénis à travers eux. Parce qu'Abraham m'a écouté, il a respecté mes ordres, mes commandements, mes règles et mes lois. Ah tiens, il y a un parce. Face à la famine qui sévit dans le désert, dans le Sinaï, Isaac s'en remet à Dieu qui lui dit au verset 2, « Séjourne dans ce pays. » Dieu prend soin d'Isaac, mais il prend soin de nous. Isaac se met donc en route et va aller à Guérar. Dans les 5 premiers versets, l'Éternel apparaît à Isaac. Il lui donne des directives, des promesses. « Ne pars pas en Égypte, va habiter. » Reste, je serai avec toi, je te bénirai, je te donnerai de ces terres. Et au verset 4, il y a 3 promesses spécifiques. Une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. La même chose avait été dite à Abraham, mais avec l'usage de 2 autres métaphores supplémentaires. Aussi nombreux que la poussière de la terre, que les étoiles des cieux, que le sable au bord de la mer. Et puis, il y a une deuxième promesse, le pays. Et puis, il y a une troisième promesse, c'est toutes les nations qui seront bénies en Isaac et en sa postérité. Et ces promesses sont suivies de la mention de l'obéissance d'Abraham. Et je vais y venir. Parce qu'Abraham m'a écouté, il a respecté mes ordres. Dans une autre traduction, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Il a observé mes ordres. Ces deux verbes mettent l'accent sur l'aspect, oui, humain de l'alliance. La traduction possible du premier verbe, c'est écouter, obéir. Le deuxième verbe, c'est respecter, observer, garder. Et qui dénote une action en cours et qui pointe un aspect humain de l'alliance. Écoutez, dans la Bible, ce n'est pas simplement la réception d'un son dans l'oreille. Pas du tout. C'est beaucoup plus que cela. Cela implique en général une obéissance active. Et donc un effort de compréhension aussi à ce qu'on a entendu. Il ne s'agit pas de poursuivre seulement notre programme personnel. Non, il faut comprendre ce qu'il nous a dit et mettre en pratique. Vivre selon la parole entendue. Alors, on peut dire qu'il y a quand même une tension réelle, qui est délibérée et voulue, entre la grâce de Dieu librement accordée à un homme, une action inconditionnelle, et puis la récurrente mention de l'obéissance, une certaine nature conditionnelle des promesses de Dieu. Je pense que les deux aspects sont vrais. La liste des ordres, la liste ordre, commandement, statut, loi, n'apparaît dans les livres entre Genèse et Nombre qu'ici, la première fois. Et par contre, dans le Deutéronome plusieurs fois. Et le terme traduit par loi, le quatrième, c'est celui qui est le Torah, qui a donné le nom à la Torah. On peut remarquer aussi que le pronom personnel répété, mes ordres, mes, ça pointe vers la souveraineté de Dieu. Poursuivant notre lecture au verset 6, il y a Isaac qui s'installe donc à Guérar. Et puis, il y a les gens de l'endroit qui l'interrogent sur sa femme. Elle est très belle, dit le texte. Il répond, c'est ma sœur. Il n'ose pas dire que Rebecca est sa femme. Il a peur de mourir pour que quelqu'un vienne voler sa femme. Elle est très belle. Isaac est là depuis longtemps et un jour, Abimélec, le roi des Philistins, regarde par la fenêtre. Il voit Isaac en train d'embrasser sa femme, Rebecca. Abimélec le fait venir et lui dit, mais c'est sûrement ta femme alors. Tu as dit qu'elle était ta sœur. Pourquoi donc? Isaac lui répond, j'ai dit cela parce que j'avais peur de mourir à cause d'elle. Abimélec continue. Mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Un peu plus! Et quelqu'un de mon peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables! Abimélec donne cet avertissement à tout le peuple. Si quelqu'un touche à cet homme ou à cette femme, je le ferai mourir. Abimélec, roi des Philistins, s'il est déjà évoqué dans chapitre 21, on peut penser que c'était peut-être un titre commun. Porté par tous les rois des Philistins, un peu comme Pharaon était un titre en Égypte. Une deuxième remarque. La pureté conjugale semble être plus sacrée pour Abimélec que pour Isaac. Alors que cela nous inspire, à nous qui sommes mariés. Il y a des similitudes entre le comportement d'Isaac et de son père que l'on voit en chapitre 12 et 20. On voit une famille qui conduit un séjour à Guérar, une promesse divine de postérité avant le départ, Dieu qui renouvelle la bénédiction parce qu'Abraham a obéi. Ah oui, il y a cette promesse et le fait, c'est qu'elle est liée à l'obéissance d'Abraham. On peut hériter de bénédictions reçues par nos parents. Et en tant que parent chrétien, il y a des bénédictions pour nos enfants. Quelle grâce! Les similitudes entre le péché d'Isaac et celui de son père sont très nombreuses. Alors, tous les deux ont péché devant Abimélec, sont réprimandés par lui. Ils avaient toutes les deux des femmes séduisantes. Et tous les deux avaient peur pour leur sécurité, pensant qu'ils pourraient tuer pour que quelqu'un puisse poser leur femme. Tous les deux mentent en disant qu'elle est leur sœur. Et ils méprisent par cette parole fortement leur femme. C'est scandaleux! Il semblerait aussi qu'aucun d'eux n'ait réalisé la gravité de leur faute, ou ne s'en soit complètement repenti. Et pourtant, il est dit dans la Genèse, l'homme s'attachera à sa femme. S'attacher. Mais Abraham, Isaac, ils nous ont montré le contraire, là. Ils brisent le lien pour se mettre soi-même à l'abri de personnes prétendues malveillantes. Nous, Marie, entendons Paul nous dire que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ. Et Pierre, mais menez la vie commune, avec compréhension. Honorez votre femme. Une vie commune, c'est vivre ensemble. Une autre similitude, durant son séjour à Guérar, Isaac est béni par Dieu. Et de même, on peut voir qu'Abraham a été, en revenant d'Égypte, béni excessivement. Oui, parce que Dieu nous bénit malgré nos chutes. Lisons à partir du verset 12. Isaac sème dans les champs. Il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Il est dit, l'Éternel le bénit. Ses biens augmentent. Il possède des troupeaux, beaucoup de serviteurs. Notez les bénédictions, il recueille le centuple, il devient riche, il a beaucoup de troupeaux, beaucoup de personnes qui le servent. Mais il est dit, l'Éternel le bénit. C'est une reconnaissance, on pourrait dire théologique, directe, que la source de bénédiction, c'est Dieu. Puisque son travail, bien il a dû travailler, mais il avait des serviteurs pour travailler aussi. Alors cette prospérité d'Isaac aurait dû attirer les Philistins vers l'Éternel. Et au contraire, quelle attitude! Ils sont remplis de jalousie. Une leçon pour nous? Sommes-nous parfois comme ces Philistins? Malheureux quand les autres prospèrent? Alors au verset 15, les Philistins comblent de terre les puits d'Abraham. Ils pensent que le manque d'eau va obliger Isaac à s'en aller plus loin. Parce qu'un puits permettait à un homme de s'installer et d'avoir un troupeau. Au verset 16, on peut lire, Abimélec dit à Isaac, tu es devenu beaucoup plus puissant que nous, pars d'ici! Alors, Isaac s'en va de la ville de Guérar, mais il reste à proximité. Il va dans la vallée de Guérar. Il va dans la vallée de Guérar où il s'installe. Parfois, rester proche d'un danger peut être néfaste. Et pour Isaac, du coup, les ennuis vont continuer. Au temps d'Abraham, son père en avait creusé des puits. Les Philistins les avaient bouchés après sa mort. Alors Isaac les a fait recreuser à nouveau. Il leur donne les mêmes noms que son père leur avait donnés. Un jour, les serviteurs d'Isaac creusent un puits dans la vallée de Guérar, donc assez proche de Guérar. Ils trouvent une source. Ça vaut de l'or là-bas. Alors les bergers de Guérar se disputent avec les bergers d'Isaac. L'eau est à nous! Et puis, verset 21, les serviteurs d'Isaac creusent un autre puits. Il y a encore une autre dispute. L'eau est à nous. Et du coup, Isaac part de là pour creuser un autre puits. Verset 22. Et là, il n'y a pas de dispute. Alors il appelle d'ailleurs Rehoboth, qui veut dire espace libre. Maintenant, l'Éternel nous a donné de l'espace, dit-il. Alors, une leçon pour nous. Ces Philistins qui bouchent les puits avec de la terre nous font penser peut-être à l'ennemi de nos âmes. Satan qui s'efforce de remplir notre vie de choses de la terre pour nous priver de la parole vivante, l'eau du puits. Alors la question pour nous aujourd'hui, qui sont ceux qui peuvent boucher nos puits? La diapo suivante, on passe à la réaction d'Isaac, qui fait d'abord recreuser le puits de son père. Il y avait, c'est sûr, beaucoup d'avantages à recreuser, parce qu'il n'y avait pas à utiliser les grands coups de pic pour casser la roche qui est très dure à cet endroit. Il suffisait de déblayer ce qui avait été déposé. En plus, l'alimentation était sûre, on savait qu'il y avait de l'eau. On comprend aussi que les bergers philistins aient cherché querelle, parce que dans ces pays, l'eau, c'est la vie. Il paraît que dans le vallon qui va vers le sud, de Guérar vers Beersheba, la nappe aquifère est à peu près 10 mètres sous terre, et puis après s'enfonce de plus en plus profondément, et ça devient creuser un puits, mais c'est très long, très difficile. Alors Isaac fait creuser de nouveaux puits dans la vallée, ok, mais creuser à cette époque un puits, trouver de l'eau, c'était affirmer que le terrain est à moi. Donc on peut dire, mais les Philistins, ils auront peut-être pu dire, mais l'eau est à nous, le terrain est à nous et l'eau est à nous. Alors du coup, Isaac va à Rehoboth et là, ouf, c'est la paix. Il retrouve la paix lorsqu'il commence à s'éloigner véritablement de cette ville. Et dans la façon dont Isaac gère la tension sur les droits à l'accès à l'eau, aujourd'hui on sait bien que c'est une tension qui est très, qui est pas susceptible de générer des guerres. Eh bien, comment il a géré cette tension de l'accès à l'eau? On voit en tout cas sa patience. C'est un homme de paix, semble-t-il. Il ne va pas rendre le mal pour le mal. Alors qu'en fait, une partie de son héritage terrestre de son père a été saccagée, hein, puisqu'il y avait les puits d'Abraham qu'il a recreusé et qu'on lui a barré l'accès. Donc c'était son héritage. Ça ne fait rien, il part plus loin. Il ne fait pas la guerre. Il quitte la ville sans menace, même si de l'aveu même de ses ennemis, il est plus puissant qu'eux, verset 16. Il redonne, il croise de nouveau les puits de son père, en redonnant les mêmes noms. Comme si dans une humble continuité, il continue le recommencer par son père. Nous sommes ici plusieurs à avoir eu des parents chrétiens. Alors, cherchant à découvrir ce qui les faisait vivre sur le plan de la foi. Creusons là où nos parents ont trouvé leur valeur, leur raison de vivre. Il y en a qui n'ont pas eu ce privilège d'avoir des parents chrétiens. Mais creuser pour trouver de l'eau vive, avec l'espoir que la génération qui va nous suivre en bénéficiera aussi. Donc Isaac ne se comporte pas, se comporte là en homme de Dieu. Il ne cède pas à la tentation de se faire justice, alors qu'il en a les moyens. Mais Isaac était un homme comme moi. Et là, on voit qu'il a peut-être un comportement admirable, mais on se souvient qu'il a péché. En tout croyant, on trouve des actions justes et des actions injustes. Est-ce qu'on se retrouve aussi dans cet homme, avec ce visage contrasté, faisant des mauvaises choses et des bonnes choses? Et malgré tout, Dieu se plaît à me bénir comme il se plaît à bénir Isaac. À Rehoboth, Isaac vit un temps de prière.
Donc il était à Guérar, il a fait des puits, après il va donc à Rehoboth.
Et puis tout à coup, sans savoir pourquoi, il va aller à Beersheba. Bon.
Un site dans le sud de du désert de Judée. C'est un camp important pour Abraham, au chapitre 22. Et d'ailleurs, quand il était descendu du mont Morija, Abraham et Isaac, c'est là où ils avaient passé un hôtel. Ah, c'est un moment important. Isaac va revenir là. Et d'ailleurs, il est dit que l'Éternel, quand il part à Beersheba, l'Éternel lui apparut. La nuit suivante, l'Éternel se montre à lui. Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham. Ton père, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je te bénirai. Et puis au verset 25, Isaac construit un hôtel, donc à Beersheba. Il prie Dieu. Et puis, il y a Abimélech de Guérar qui vient voir Isaac avec aussi deux acolytes. Isaac leur dit, mais pourquoi est-ce que vous venez me voir? Vous me détestez, vous m'avez renvoyé de chez vous. Ah, il y a toujours des blessures en lui. Hein. Être rejeté, c'est difficile. Et ils répondent, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. Il faut une paix être établie par un serment. Et puis j'ajoute maintenant, tu es un homme béni de l'Éternel. Ah, quel témoignage! Maintenant qu'il s'est éloigné du pied des Philistins, il se rapproche de Dieu, il retrouve une vie de communion, et la conséquence, c'est que les autres voient que Dieu bénit Isaac et que Dieu est avec lui. Son témoignage devient efficace. Est-ce qu'il avait, c'était le cas lorsqu'il était à Guérar? Je ne sais. Que nous puissions faire aussi cette expérience, comme Asaph dans le psaume 73, pour moi, m'approcher de Dieu et mon bien. Et là, en s'approchant de Beersheba, on a l'impression que tout change. Au verset 30, Isaac leur fit un festin. Bon, à cette époque, partager un repas de communion permettait de sceller une alliance. J'accélère un peu. J'ai bientôt fini. Dans les versets 23 à 25, il arrive quelque chose de très étrange, comme j'ai dit. Jusqu'à maintenant, la décision d'Isaac concernant son lieu d'habitation, d'installation, ça dépendait que de la présence de l'eau et d'une certaine non-opposition, pas de querelle. S'il y avait de l'eau et pas de querelle, il restait. Mais comme il y avait des querelles, il allait plus loin, puis de nouveau des querelles, et ainsi de suite. Donc. Ah mince, ayant creusé un puits qui n'était pas contesté à Rehoboth, on s'attend qu'il reste là, tiens, mais ça y est, maintenant ça marche. À Rehoboth, il n'y a pas de querelle, j'ai un puits, je peux y rester. Mais non, il s'en va, à Beersheba. Sans explication. Le processus de réflexion d'Isaac est comme changé. Avant, les circonstances déterminaient ses décisions. Il semble que c'est quelque chose de plus profond qui semble donner direction à sa vie désormais. Isaac construit un hôtel à Beersheba, et il prie Dieu. Il prie, il s'adresse à Dieu. Comme si dans ces versets, la série d'événements est à l'envers par rapport à sa vie d'avant. En premier, qu'est-ce qu'Isaac fait? Creuse un puits? Non, en premier, il bâtit un hôtel. Ensuite, il prie. Et seulement après, il installe sa tente. Et seulement après, il creuse un puits et il trouve de l'eau. Mais c'est incroyable! Et la bénédiction, par contre, de Dieu devient évidente. Alors, il y a ce repas avec Philistin et ses acolytes, je passe. Et puis, le même jour, verset 32, les serviteurs d'Isaac viennent lui apporter des nouvelles d'un puits qu'ils sont en train de creuser. Ils disent, nous avons trouvé de l'eau. Alors, Isaac appelle ce puits Sheba, ce qui veut dire serment. Et aujourd'hui encore, la ville s'appelle Beersheba, le puits du serment. Alors, en ce même jour, comme pour manifester son approbation, Dieu fait jaillir de l'eau. Alors, cette eau, sans doute, devient le puits du serment, comme elle a été pour son père. Et le témoignage d'une bénédiction sans doute de Dieu directe. Je m'arrête parce que je suis un peu long. Deux diapos de conclusion. Le mélange, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce chapitre 26? Ben, il y a un mélange dans tout être humain de à la fois la foi et à la fois de la peur. La peur des autres plus que la crainte de Dieu. Quelle que soit la supercherie qu'on met en place, on finira toujours par être démasqué pour qui on est vraiment. Le plan divin de la rédemption, où Dieu bénit même quand nos circonstances familiales sont entachées d'erreurs. Abraham, Isaac agissent par tromperie et bafouent Dieu, et malgré cela, Dieu se plaît à les bénir. Dieu se plaît à nous faire du bien, même, je dirais, spécifiquement, après nos chutes. Mais prenons-le pour nous, ça. Car Jésus se réjouit de sauver des perdus. En Hébreux 12, verset 2, d'Aclune d'Acture, qui est en vue de la joie à venir, en vue de sauver. Oui, nous sommes perdus, nous sommes des pécheurs, mais Jésus se réjouit de nous faire venir à la vie, au pardon, à la paix. Et Dieu se plaît à nous bénir pour nous relever. On se rappelle que Joël nous avait dit que le mot clé de la Genèse était bénir, bénédiction, qui se retrouve beaucoup plus, en nombre beaucoup plus nombreux que même dans les psaumes. Et puis Dieu est fidèle à sa promesse. Malgré la mise en danger de la sécurité du lignage, il n'y avait pas de test ADN à l'époque. Hein, donc il y avait pour Rebecca comme pour Sarah, il n'aurait pas fallu qu'elle soit enceinte d'un monarque ennemi. Mais Dieu a préservé ça. Parce qu'il avait l'élection, c'était par qui était bien définie. Et aujourd'hui, Dieu se plaît à confirmer chez nous, chez moi, mon élection. Oui, on est tous élus. On l'a chanté depuis l'éternité. Je sais plus comment ce cantique là tout à l'heure. Tu m'as connu, tu m'as élu. Tu m'as aimé depuis l'éternité. Et donc aujourd'hui, Dieu se plaît à confirmer ton élection. Dieu t'a aimé et t'a sauvé et t'a aimé depuis l'éternité. Alors aujourd'hui, nous vivons aussi par la foi et en espérance, comme à l'époque, ils devaient vivre par la foi et en espérance. Mais quand même, on est beaucoup plus privilégiés, parce que la croix a été faite par Jésus-Christ. Et on a des privilèges de cette nouvelle alliance incroyable pour vivre. Donc on peut tomber, mettre le doigt sur les péchés de ces patriarches, mais ils avaient, nous, avec l'œuvre de la croix accomplie, on a plus des ressources qu'ils n'avaient pas. Dans l'histoire de la rédemption, il y a trois épisodes de mensonges, deux pour Abraham, un pour Isaac, qui montrent chaque fois donc, le soin de Dieu pour protéger sa lignée choisie en vue de l'arrivée du Messie. Et l'arrivée de ce Messie, de Jésus, est vraiment une pure grâce. Comme si à chaque génération, les agissements humains pouvaient mettre en péril le projet de Dieu, mais Dieu reste au contrôle. Dieu contrôle, ça sera mon dernier mot.